Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI, invité Vincent Peillon, député socialiste européen. Un débat dirigé par Alba Ventura.
Bonsoir et bienvenue dans le grand studio d'RTL pour ce nouveau grand jury. Vincent Peillon, bonsoir.
Bonsoir Alba
Avec
Ventura.
Avec moi, pour vous interroger, Étienne Moujotte du Figaro, Éric Revel. D'LCI. Alors, dans l'actualité, il y a des sujets très importants. Il y a le défi de Copenhague, la grande conférence sur le climat, on va en parler. Il y a aussi le débat sur l'identité nationale, on y accordera une large part. Mais, alors, il y a depuis hier soir, et je me garde bien de mettre sur le même plan ces sujets, il y a depuis hier soir Ségolène Royal qui s'est encore invitée dans un débat. Vous savez ce que c'est, vous, Ségolène Royal qui s'invite dans un débat? Je reprécise les choses. Le MoDem de François Bayrou s'est réuni en congrès ce week-end à Arras. Ségolène Royal a tendu la main pour fusion des listes au premier tour en échange de 5 places éligibles. Vous en pensez quoi ?
D'abord, vous dites les choses avec humour et je vous en félicite. La réalité, c'est que le MoDem fait un congrès. J'ai cru comprendre que c'était un congrès de programme. Et je me suis même donné la peine de lire, parce que ça peut nous soucier les uns et les autres, les propositions du MoDem sur l'école, qui va être sa priorité, sur la fiscalité, qui est particulièrement injuste, sur la question des banlieues, qui est en déshérence. Et je crois qu'il souhaitait avoir ce débat. Le MoDem, vous le savez, n'est pas un parti...
Tranquillement, vous voulez dire, de son côté.
Le MoDem n'est pas, je crois, un parti régional. C'est un parti national. Et donc je crois que le week-end, si on s'intéresse au MoDem en tout cas, il est intéressant parce que les orientations que le MoDem a pu prendre ce week-end sont des orientations qui peuvent rendre les Français qui souhaitent qu'en 2012 les choses changent, que la France se remette en mouvement, que les problèmes des Français trouvent des solutions, je pense que ça peut les rendre optimistes.
Alors, vous répondez pas du tout à la question. Vous pensez quoi de Ségolène Royal qui déboule comme ça dans une discussion, qui fait une proposition, d'ailleurs qui n'a pas été suivie des faits, puisque François Bayrou lui oppose une fin de non-recevoir. Vous pensez quoi de cette manière de faire de Ségolène Royal ?
Vous voyez, vous l'avez dit vous-même, c'est fini d'une certaine façon, puisque c'est une question qui ne s'adressait pas à moi. Je ne suis pas membre du MoDem. Par ailleurs, je n'exerce pas de responsabilité en Poitou-Charentes. Je peux le regretter, mais c'est ainsi. Donc cette question ne s'adressait pas à moi, elle s'adressait à François Bayrou. Il a répondu, moi, ce qui m'intéresse, c'est que des gens qui partagent un certain nombre de valeurs et un grand amour pour leur pays, qui sont inquiets de l'évolution de ce pays, où la fracture sociale, la fracture territoriale s'accroît, puissent travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'avec mes amis, depuis plusieurs mois, nous avons fait ce qui s'appelle le rassemblement.
Vous voulez pas répondre, Ségolène Royal. Vous voulez pas répondre. Quand je vous demande si vous êtes d'accord avec sa manière de faire.
Alors, je suis en train de vous répondre. Le rassemblement, c'est la volonté de rassembler des gens qui sont des communistes, qui sont des écologistes, qui sont des radicaux, qui sont des citoyens, pas n'importe qui. Robert Rue, Christiane Taubira, des candidats à la présidentielle, beaucoup de vice-présidents qui étaient là au MoDem, des socialistes éminents. En se disant, si nous voulons jouer franc jeu avec les Français, si nous voulons proposer quelque chose de différent demain, il faut qu'on travaille sur le fond, dans la durée, dans le respect des uns et des autres, en montrant à la fois là où on peut converger et diverger. Ça suppose beaucoup de précautions, ça suppose souvent de se mettre personnellement un peu en arrière, pour que nous soyons tous à égalité de droits et de devoirs, et ça suppose une certaine persévérance. Quand vous voulez, nous sommes sur un objectif 2012 avancé, et nous avons quand même de beaux exemples dans le passé, François Mitterrand, Lionel Jospin. Il faut se donner du temps, pas faire les choses au dernier moment, respecter la méthode, on parle de l'identité nationale. La méthode Descartes, c'est la France. Elle est nécessaire à la recherche de la vérité. Il faut faire les choses avec patience et sérieux.
Mais sur le fond, Vincent Peillon, puisque vous parlez à juste titre du fond, vous me faites irrésistiblement penser à quelque chose de très ancien. Le cartel des noms à De Gaulle, des socialistes à l'extrême droite. Pas à l'extrême droite, à la droite. Comment pouvez-vous imaginer marier les communistes et François Bayrou, qui lui dit, il faut aller aussi vers la droite sociale. Est-ce que ce grand cartel, ça n'est pas simplement un machin électoral ?
La vraie question, elle est que nous sommes obligés, mais ça, finalement ça ferait du bien à la France, hein, de parler des vrais sujets. Je vous en donne un, l'école. Nous sommes le seul pays d'Europe où depuis 2000, les dépenses, alors c'est à la fois Eurostat, mais c'est l'INSEE français, les dépenses pour l'éducation, c'est l'avenir, sont en baisse de 1 point. Il y a un accord, parce que nous l'avons constaté, ceux qui étaient à Dijon, qui ont bien voulu travailler, écouter les syndicats, écouter les experts, écouter les dirigeants de partis qui étaient là, il y a un accord qui va de Robert Hue à Madame Taubira, pour dire il faut faire de l'école une priorité. Il y a un thème dont on nous rabat les oreilles depuis plusieurs semaines, c'est l'identité nationale. Vous savez,
on va
la
en parler,
France,
hein.
C'est le projet républicain. Et le projet républicain, c'est l'école. Nous avons abandonné cela. Ça coûte très cher. Et tout à l'heure, j'y reviendrai. Eh bien, ces gens-là ne sont pas dans le refus, ils sont dans le projet. Il faut à tout prix que nous soyons capables de remettre ce pays en mouvement. Et donc, sur un certain nombre de sujets sur lesquels il faut travailler, l'école, et nous pouvons aller plus loin dans ces propositions, si vous le souhaitez, que nous avons construit en
d'ailleurs
commun.
Sur l'enseignement, l'enseignement, il y a un effort très important à destination des universités, 6 milliards, plus le grand emprunt qui sera consacré en partie à la recherche, à l'université, à l'enseignement. Donc, il est difficile de dire qu'il y a un abandon absolu de l'école. Vous avez une lecture, me semble-t-il, un peu unilatérale.
Je vous donne les chiffres, mais ils peuvent ne pas vous intéresser, qui sont partagés par tous les Européens. 7% de la richesse nationale était consacrée jusqu'à 2000. La droite gouverne depuis 2002 aux dépenses d'éducation. Nous sommes à 6,5%. Et nous sommes le seul pays, parce que nous avons signé la stratégie de Lisbonne, où on devrait investir dans l'avenir, dans la recherche, dans l'éducation, où cela baisse. Si vous considérez que aujourd'hui, où on supprime 16 000 postes dans l'éducation nationale, où 75% de nos enseignants sont mécontents et veulent changer de métier, où les enfants de France sont les enfants dans les statistiques européennes les plus malheureux à l'école, et où en même temps nous voyons les parents d'élèves perdus sur les stratégies d'orientation, si vous pensez que cela va bien et que cela va mieux depuis quelques années, ce n'est pas le constat que nous faisons. Mais comme il ne suffit pas de dire « ça va mal », parce que ces problèmes sont des problèmes anciens pour la France, et il y en a d'autres sur lesquels on reviendra, il faut construire des solutions. Et c'est pour ça, pour construire des solutions, il faut travailler, il faut se parler, il faut se respecter, c'est ce que nous faisons dans le Rassemblement.
Il avait réussi à mettre 1 million de protestataires dans la rue quand il était ministre de l'Éducation, donc c'est pas forcément le meilleur allié sur l'école.
Éric ?
Vincent Peillon. On va parler de François Bayrou, mais peut-être d'une autre manière. J'aimerais avoir votre sentiment quand François Bayrou, lors du congrès du Modem à Arras, lance l'idée, le concept, rassembleur, dit-il, de maison d'alternance. Est-ce que pour vous, c'est la même chose que la maison commune de la gauche ? Autre concept lancé par le Parti Socialiste. Est-ce que ces deux maisons ont des portes qui ouvrent l'une sur l'autre ?
Je vais vous dire, moi je trouve que les choses évoluent dans le bon sens, et tant mieux, et donc saluons-les. J'ai entendu Martine Aubry, dans sa grande émission il y a quelques jours, dans un dialogue d'ailleurs avec Madame de Sarnez, qui a laissé entendre qu'effectivement, si le Modem avançait sur ses projets de fond, si le Modem clarifiait le ni droite ni gauche, alors un travail était possible. Vous le savez, toute la France le sait, dans un certain nombre de collectivités locales, c'est possible. Lorsqu'on voit les problèmes de la France, et je pense que si les Français ont voté pour Nicolas Sarkozy, c'est qu'ils ont cru sincèrement qu'il allait résoudre un certain nombre de nos problèmes.
Mais d'une certaine manière, François Bayrou vous a répondu au congrès d'Arras. Il a donné une lecture très à gauche de l'évolution du Modem. Il a lancé son idée de petit livre orange dans lequel il y a beaucoup de propositions qui vont en direction
la
du Parti Socialiste.
De l'impôt,
ce qui vous permet de répondre
le droit de vote des étrangers.
Non, mais je vous pose la question. C'est-à-dire, vous dites
la priorité du Modem, aujourd'hui, dans le programme qu'ils ont donné, c'est l'éducation. Et moi, je vous dis, en 2012, il faut, dans le projet d'alternance, dans le contrat qu'on doit passer, dans la transparence avec les Français, remettre la question éducative au centre.
Mais est-ce que ce programme c'est de François Bayrou est un programme de gauche pour vous? Parce qu'il y a l'éducation, vous avez raison, il dit pourquoi pas instaurer une taxe Tobin, il parle de l'adoption de couples homosexuels, il a une vraie thématique de gauche du Parti Socialiste.
Écoutez, moi ce que je constate, c'est que nous avançons. Nous avions un François Bayrou qui nous a dit, d'ailleurs, et c'était à Marseille, chez nous, et Marielle de Sarnez a pris ses responsabilités, parce que ça n'était pas le cas aux élections municipales, vous vous en souvenez. C'est-à-dire que le Modem faisait des alliances, parfois avec la gauche, mais parfois aussi, par exemple à Bordeaux avec Alain Juppé, avec la droite. En travaillant sur le fond, en voyant l'évolution du pays, le Modem a, comme nous tous, parce que faire de la politique, c'est aussi anticiper et évoluer. À évoluer dans un certain nombre de positions qui sont les siennes.
Et alors aujourd'hui,
les dialogues que nous avons pu entretenir. Vous savez, je crois que dans le respect, il travaillera avec la gauche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les communistes, les verts, les radicaux, les citoyens, les démocrates, ceux du MoDem aujourd'hui, comme les socialistes, puissent venir dans ce travail sans renoncer à ce qu'ils sont. Je crois que, et ça manque dans la vie politique française, trop de mensonges, trop d'irrespect.
Est-ce que vous pouvez répondre plus clairement? Est-ce que oui. François Bayrou a fait le pas suffisant à gauche pour vous plaire totalement à vous, Vincent Peillon?
Moi, je pense que sur les sujets que nous abordons, nous allons faire le 23 janvier la question de la justice, des médias, de la Nouvelle République. Nous traiterons la question de la réforme fiscale. Je pense qu'il faut à ce pays, et peut-être nous aurons l'occasion de le développer, une très grande réforme fiscale. Je pense que sur le thème de la croissance et de la dette, c'est-à-dire ce que nous devons faire pour nos petits entrepreneurs, je pense qu'ils ont cheminé, et ce cheminement me va bien.
Est-ce que vous comprenez, comme certains commentateurs, que l'objectif de François Bayrou, c'est d'essayer d'être au deuxième tour de la présidentielle? Et comment? En mangeant la laine sur le dos des socialistes. C'est sa stratégie. Il ne s'en cache pas.
J'ai observé...
Ça ne vous a pas échappé.
Non, j'ai observé que beaucoup de gens souhaiteraient être au second tour de la présidentielle. Ce qui m'importe,
lui notamment, hein.
Ce qui m'importe, c'est qu'on dessine un projet pour la France. J'ai même vu des gens être au second tour, et j'ai même vu des gens être élus, sur un certain nombre de paroles, la revalorisation du travail, et immédiatement, c'est d'abord les héritages que l'on a favorisés, l'emploi, nous avons augmenté de 25% nos taux de chômage cette année, la sécurité, 4% de plus d'atteinte aux personnes dans l'année. Moi, je pense que la France doit résoudre ses problèmes, que tous ceux qui sont de bonne volonté doivent s'unir pour le faire, et que aucun de ceux-là, du moment où on le fait dans la clarté et sur le fond, ne doivent renoncer à ce qu'ils sont.
Mais comment pouvez-vous parler de clarté quand vous voulez mettre dans la même majorité Besancenot, Mélenchon et Bayrou, voire la droite sociale? Qui peut le croire?
D'abord, vous n'êtes pas assez précis dans la question que vous me posez, car je n'ai jamais dit que je voulais mettre Besancenot dans la même majorité.
Ah, Benoît Hamon ou d'autres leaders socialistes disent d'abord l'union de toute la gauche.
La gauche ne va pas jusqu'à la Ligue communiste révolutionnaire, soyons précis, ne disons pas aux gens des choses qu'ils ne comprendraient pas. Elle est très traditionnelle. C'est le Parti communiste, ce sont les citoyens de Jean-Pierre Chevènement, ce sont les radicaux avec Jean-Michel Bellay, ce sont les Verts avec qui nous avons travaillé dans les régions et au gouvernement. Et maintenant, il y a une évolution. Vous savez, vous regardez beaucoup vers le passé, il faut regarder vers l'avenir. Ce pays en a besoin. Il y a des changements profonds dans la vie politique française. Et c'est notre responsabilité politique d'en tenir compte. Il y a un changement majeur. Moi, j'ai commencé la vie politique, c'est l'union de la gauche, avec un parti communiste à 25%. C'est fini. Et l'hégémonie, y compris intellectuelle, du parti communiste sur la gauche française, c'est fini. Il y a un deuxième changement, parce que tout le monde en parle et on va en parler. Il y a l'émergence d'une préoccupation, la préoccupation écologique, et d'un vote vert dont il faut tenir compte. Troisièmement, la démocratie chrétienne, le centre français, Madame de Sarnez, était et a travaillé avec Giscard d'Estaing. François Bayrou a été un ministre de droite. Parce que Nicolas Sarkozy, et on va en reparler à propos de l'identité nationale, a durci les positions de la droite républicaine française. Eh bien, ce centre et un certain nombre de démocrates chrétiens ont quitté la droite. C'est quelque chose d'absolument fondamental dans l'évolution du paysage politique. Nous sommes ceux qui veulent tenir compte de ce qui se passe et trouver la nouvelle formule. La formule de demain, ce ne sera pas l'union de la gauche. Nous ne sommes pas avec Robert Fabre et un parti communiste à 25%, c'est fini. Et ça a duré que jusqu'en 83. Ce ne sera pas la gauche plurielle. Lionel Jospin lui-même en a acté le décès en 2002. Et c'était une formule qui a posé, même au gouvernement, un certain nombre de problèmes. Donc nous avons à inventer l'alliance et la stratégie politique qui permettra, parce que c'est notre but, de servir notre pays. Il faut travailler. Moi, je ne pense pas que tout est réglé. Je ne pense pas que des accords d'appareil y suffiront. Je pense que nous devons travailler sur le fond, voir les convergences, voir les divergences et essayer de construire ensemble ce projet.
Vincent Peillon, vous n'avez pas souhaité nous répondre tout à l'heure sur Ségolène Royal vis-à-vis de François Bayrou. Alors, vis-à-vis de vous, peut-être, vous allez nous répondre. Vous en êtes où de votre divorce politique, tous les deux?
Vous savez, j'essaye de vous le dire depuis tout à l'heure, la responsabilité que j'ai prise dans la dernière période, c'est de permettre de faire, c'était le cas à Dijon. Les uns et les autres, et les gens qui nous écoutent et les gens qui nous regardent, pensent que Dijon était une réunion d'un courant socialiste. C'était l'acte de naissance de ce rassemblement qui est la seule nouveauté dans la vie politique française depuis des années. N'en parlons pas. Étienne Moujotte me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui peut, et il a raison, rapprocher un ancien secrétaire général du Parti communiste de quelqu'un qui a travaillé avec Valéry Giscard d'Estaing. Nous n'avons travaillé que sur l'éducation et nous avons fait 6 propositions communes. Personne n'en a parlé. Il y a d'ailleurs aujourd'hui, c'est intéressant, sur le net, sur les blogs, beaucoup de gens qui font l'analyse de ce qu'a dit la presse dans les jours qui suivent. Comment on est passé, parce que de temps en temps il faut rendre compte des faits, d'une réunion d'un rassemblement à une réunion d'un courant du Parti Socialiste, c'était pas ça. Et deuxièmement, à une querelle de courant, alors que c'était un débat avec tous les experts et les syndicalistes sur l'éducation. Ma responsabilité avec tous mes amis, c'est de continuer à travailler sur le fond, avec ceux qui le souhaitent, parce que dans le fond, quand on s'engage en politique, moi j'ai quitté ma salle de classe en 1997.
Qui dirige ce courant ? Ségolène Royal ? Pourquoi vous n'arrivez pas à être clair et à nous dire la situation ?
Je vais être extrêmement clair, si vous le souhaitez. Vous savez, nous sommes un parti démocratique. Parfois on nous le reproche parce que ça fait beaucoup de votes et de débats internes. Les militants ont voté dans un congrès, mais dans des urnes et avec des bulletins secrets. Donc il y a 40 000 voix pour une motion qui s'appelait la motion, qui était d'ailleurs dirigée par Gérard Collomb et pas par Ségolène Royal. Ces militants ont élu leur représentation, comme dans la démocratie représentative. Et donc il y a un parlement du Parti Socialiste avec 100 personnes qui vont se réunir le 15 janvier et qui vont confirmer si le collectif, c'est-à-dire une vingtaine de personnes, parce que vous savez, la grande opposition est ce qui fait beaucoup de mal à la France. C'est dans le fond ma personne avant tout, ou alors un projet et un rassemblement. Moi, je veux d'abord faire les idées et ensuite
le rassemblement. Oui, mais vous dites un vote le 15 janvier, Ségolène Royal, elle souhaite un vote pour savoir qui... en réalité dirige ce courant socialiste, plutôt après les régionales. Là aussi, vous vous opposez. Elle n'a pas la même vision du calendrier que vous.
Mais vous voyez, vous pensez que c'est une opposition de personnes. Et moi, je vous réponds en vous disant, il y a des gens élus démocratiquement qui prennent des décisions. La décision du 15 janvier, c'est pas moi qui l'ai prise. C'est les 20 dirigeants qui sont élus, il y en a dans cette salle, qui sont membres du Bureau National, élus par les militants. On dit, avant Noël, c'est difficile, c'est trop chaud, mais il faut quand même régler cette question. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez nous dire sans cesse, etc. Bon, si quelqu'un veut le contester, il peut le faire dans le cadre, qui est le cadre légitime, qui est le cadre légal de notre vie commune. Il faut quand même, dans la démocratie, savoir que les institutions, c'est pas rien. L'esprit civique, c'est pas rien. Quand on accepte des règles, un vote, qu'on élit des représentants, c'est comme si on décidait aujourd'hui que les députés n'ont plus aucun intérêt, que les... Bon, ça n'est pas possible. Donc ça va être décidé. Moi, je vais vous dire, au bout du bout, étant donné la démarche qui est la mienne, tous ceux qui voudront y contribuer, à commencer par Ségolène Royal, travailler sur le fond, travailler avec les autres, s'intégrer dans un collectif, j'en serai très heureux.
Moi devant, les autres derrière. Étienne Moujotte.
Vincent Payon, vous dites à juste titre, il y a des grands courants nouveaux qui émergent dans la société française. Il y en a un, évidemment, c'est l'écologie, les verts, le développement durable. Ces verts, ils vont aller au régional avec des listes autonomes et pas avec le PS. Si à l'issue du premier tour, dans certaines régions, une liste verte est en tête devant le PS, ça peut arriver. Est-ce que vous êtes d'accord pour que la liste d'union au deuxième tour soit dirigée par un vert et non par un socialiste? Dans cette hypothèse.
D'abord, je vais vous le dire, qu'il n'y ait pas de confusion. Je ne le souhaite pas je regrette cette division.
Je m'en doute.
Deuxièmement, je trouve qu'il faut faire attention, quand on veut faire de la politique autrement, ce qui est le cas des Verts, à pas être trop arrogant. J'entendais Cécile Duflot dire « j'ai pas une tête à être la vice-présidente de Jean-Paul Huchon ». C'est pas gentil pour ses camarades qui, depuis 12 ans, dirigent la région d'Île-de-France comme vice-président vert avec Jean-Paul Huchon. Troisièmement, je trouve que les présidents de régions socialistes, 20 sur 22, ont, du point de vue du développement durable, fait un excellent travail. Un excellent travail sur les transports, un excellent travail sur le développement de l'agriculture raisonnée, je le vois dans ma région, en Rhône-Alpes. Et je sais qu'ils vont prendre des engagements, on va parler tout à l'heure de Copenhague, qui sont des engagements extrêmement forts, par exemple, dans les relations avec les entreprises, qu'il n'y ait pas simplement des clauses sociales, mais des clauses environnementales, pour qu'il y ait des conventions entre les régions et les entreprises. Par exemple, que tous les transports entre le domicile et le travail ne puisse pas coûter plus de 2 euros à chaque travailleur, de telle sorte que nous abandonnions nos voitures individuelles. Troisièmement, que les objectifs que nous souhaitons pour l'Europe, 30% de réduction de CO2, soient appliqués dans les régions socialistes et de gauche, à objectif de 2016. Je crois que le travail qu'ils ont fait aurait mérité qu'il y ait ce rassemblement au premier tour. Je regrette que ce ne soit pas le cas. Ensuite, pour répondre précisément à votre question, si...
Malheur pour vous.
Un communiste, puisqu'il ne se présente pas non plus avec nous, nous sommes très divisés.
Il y a moins de chance.
Si un vert arrive dans cette concurrence démocratique et républicaine devant le Parti Socialiste, bien entendu, nous nous rassemblerons derrière lui au second tour, sans aucune forme d'hésitation.
Éric Revel.
Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, les questions de dette, de finances sont tout à fait des questions centrales, sans doute pour les régionales, mais surtout après, pour les présidentielles. Est-ce qu'un économiste de dimension internationale, qui dirige le FMI aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn, serait, d'après vous, le bon candidat lorsqu'on voit les primaires qui se profilent au Parti Socialiste, qu'on voit que le chantier est total? Est-ce que Dominique Strauss-Kahn, pour vous, vu les positions qui sont les vôtres, notamment en matière économique, serait un candidat qui pourrait mettre tout le monde d'accord?
Écoutez, par expérience, hein, j'ai été très proche de Lionel Jospin. Nous avons commencé la campagne de 2002 en étant annoncé à 53%. Nous n'avons pas été présents au second tour. J'ai soutenu avec beaucoup d'ardeur et de loyauté Ségolène Royal dans la dernière élection présidentielle. Les sondages à 2 ans me semblent pas devoir occuper toute ma réflexion. Et je reviens.
C'est pas tellement sur les sondages, c'est sur votre perception personnelle du personnage, de sa dimension internationale.
Vous savez que nous avons dirigé ensemble les experts sous Michel Rocard, que nous échangeons très fréquemment. Et lui, comme d'autres, sont tout à fait légitimes.
Un ami de 30 ans.
Un peu moins pour ce qui me concerne, mais c'est un ami ancien, oui, puisque c'était en 94 que nous avons essayé déjà de remonter et de redonner à ce parti une certaine cohérence qui a porté ses fruits en 97. Il a été un excellent ministre des Finances. Il a vécu des injustices, vous le savez, juridiques, qui ont été ensuite, d'ailleurs judiciaires même, qui ont été ensuite et qui ont montré qu'il faut être prudent dans ces questions. Il fait un travail tout à fait utile au Fonds monétaire international.
Donc,
nous avons décidé collectivement un processus de primaire auquel je tiens beaucoup. S'il veut y participer, il est tout à fait le bienvenu.
Et s'il est le seul à pouvoir battre Nicolas Sarkozy, vous le soutiendrez?
Vous savez, le problème, c'est que moi, je suis un modeste homme politique. Je ne suis pas prophète. Je n'ai pas le don de la divination. Je vous ai pris 2 exemples précédents pour vous dire, je fais un effort et je crois que ce serait utile dans la vie politique française pour qu'on remette un peu de rationalité. Nous ne savons pas qui pourra battre Nicolas Sarkozy 2 ans et demi avant. Si Dominique le peut, si Dominique le veut, si les militants le choisissent, si la gauche le porte, je serai à ses côtés, comme j'étais aux côtés de Lionel Jospin, de Ségolène Royal, du candidat de la gauche.
Ça veut dire que vous ne serez pas candidat aux primaires, vous ?
Non, je l'ai déclaré. Justement pour la cohérence par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, je trouve que cette inversion incroyable qui coûte tant, la Ve République, mais qui coûte tant à notre vie politique, où nous ne parlons jamais des vraies questions, je le vois, je suis député européen, les débats sont beaucoup plus rationnels sur les questions de fond qui animent notre société. Et là, les questions de personnes prennent le pas sur tout. Je pense que c'est une mauvaise chose, que ça désespère nos concitoyens et que d'une certaine façon, ça blesse notre pays dans la durée. Et donc, il faut être cohérent. La tâche à laquelle je me suis attelé, mais avec tous mes amis, c'est obstinément parler des problèmes de la France. Dans le fond, les problèmes des socialistes, c'est les problèmes de la France. Les sécurités, la sécurité, les banlieues, la sécurité sociale. Comment on va faire? On a un déficit à 140 milliards, une sécurité sociale à 35 milliards. Ces problèmes sont devant nous. Il faut construire des réponses. C'est notre travail. Et notre travail, c'est en même temps, parce que les réformes que nous aurons à faire sont extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Je n'ai jamais pensé qu'il suffisait que la gauche arrive, car nous avons gouverné 15 ans, de 81 à 2002, sur 21 ans. C'est historique. Et chaque fois, nous avons été battus après la première mandature. C'est-à-dire que nous n'avons jamais eu 2 législatures de suite. Les problèmes de la France sont des problèmes très complexes. Et c'est aussi pour ça qu'il faut une majorité large. Et c'est aussi pour ça qu'il faut un contrat de gouvernement dans la clarté. Et c'est aussi pour ça qu'il faut penser que l'on n'a pas toujours raison tout seul.
Juste un petit détail sur les primaires. Il faudrait qu'elles viennent quand ? Fin 2010, début 2011, fin 2011.
Je pense, je lisais François Hollande ce matin, je pense que la proposition raisonnable, mais il faut qu'elle soit décidée dans un consensus. Ce n'est pas un piège, on n'est pas... je pense que la fin du premier semestre 2011 pourrait être une bonne date.
On va revenir sur les régionales, Vincent Peillon. Ça y est, le PS a validé ses listes. Et alors, aux surprises, Georges Fraîche est donc candidat dans l'Hérault. Vous le soutenez, vous, Georges Fraîche ?
Je l'ai toujours soutenu. C'est un ami personnel.
On rappelle qu'il est exclu du PS pour des dérapages verbaux.
J'ai toujours pensé...
Qui n'ont rien envié au maire UMP de Gussainville.
Si, et il m'est arrivé d'être pris dans des maelstroms médiatiques où je suis obligé pendant des semaines de rétablir la vérité. Profondément, Georges Fraîche, dont la mère était née dans le petit village où on a fait pèlerinage ensemble de Jean Jaurès, est un homme qui n'a en lui pas l'once de moindre comportement ou pensée raciste. Il a fait, pour la gauche, pour sa ville, pour sa région, des choses tout à fait remarquables. Vous avez noté quand même, parce qu'il faut respecter la démocratie en démocratie, que tous les élus de sa région, le Gard, l'Hérault, bien entendu, l'Aude aussi, des jeunes élus, des moins jeunes, ont décidé de le soutenir comme les militants. Je suis d'ailleurs choqué. On avait ce match de rugby avec les All Blacks il y a une semaine, qui s'est pas très bien passé. Je vois que Didier Codorniou, qui est un ami très proche, qui est la tête de liste, est traité par les journalistes comme un affidé, je le disais dans une dépêche AFP. C'est le premier Français qui a marqué contre les All Blacks en 1979. C'est un type qui est réélu dans sa ville avec 85% des voix. C'est l'honneur du Parti Socialiste d'avoir quelqu'un comme ça. Et les socialistes du Languedoc-Roussillon ont décidé de garder cette région à gauche. Je les y encourage et je soutiendrai, comme je l'ai fait par le passé, dans l'avenir, Georges Fraîche.
Donc il peut continuer à dire que les Harkis sont des sous-hommes, qu'il y a trop de blagues dans l'équipe de France?
Vous savez très bien qu'il n'a jamais dit ça. Il s'en est pris à une personne en particulier. Les Harkis sont venus me voir. Il y a deux grandes communautés.
Georges Fraîche.
Non, il n'a pas été condamné, justement. Notez bien, d'ailleurs, le porte-parole du Parti Socialiste, qui a changé de point de vue, l'a rappelé dans une émission à l'heure du déjeuner. Il a précisément pas été condamné par la justice. Parce que,
Il n'a pas été condamné, il a été poursuivi. Il y a quand même des gens.
Il y a des gens qui ont porté plainte.
Ont entravé un peu ses propos, non?
Mais parce qu'ils n'ont pas été restitués, c'est votre travail dans la vérité. Moi, je me suis renseigné. Non seulement je le connais, mais je me suis renseigné. Y compris sur ce qu'il voulait dire sur l'équipe de France. C'est au contraire, et c'était en inversant les choses, en disant « Arrêtons de ne pas reconnaître cette France métissée, alors qu'on est tellement content, lorsqu'il y a la Coupe du Monde ou ailleurs, d'aller applaudir nos joueurs lorsqu'ils sont blacks, lorsqu'ils sont originaires du Maghreb. »
Il faut que vous aidiez à décrypter Georges Fraîche.
Je le ferai aussi sur d'autres sujets. Récemment, je pense, oui, qu'il y a un devoir de vérité, et je vois trop souvent des rumeurs partir, balayer des individus, la meute partir. Je ne suis pas pour. Donc, en l'occurrence, pour Georges Fraîche, les choses ont été faites dignement.
Les gens s'y retrouvent, notamment sur ce que veut, ce que souhaite le Parti Socialiste concernant ses élus. Bon, vous venez de défendre avec beaucoup de véhémence, d'aplomb et de sûreté Monsieur Fraîche.
Et
en même temps, Julien Drey, lui qui est présumé innocent, ne trouve pas une place sur une liste parce que le Parti Socialiste l'écarte. Il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire.
Mais vous avez bien raison de dire ça, je l'ai dit. Je suis républicain avant d'être socialiste. Il y a deux principes pour moi qui sont déterminants. D'une part, la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs. Ce sont pas les médias ou ce sont pas les partis politiques qui font le travail de la justice. Et deuxièmement, la présomption d'innocence. Dans cette affaire, aucun de ces deux principes élémentaires n'ont été respectés. Et donc, j'ai dit dès le premier jour que je trouvais que c'était une mauvaise manière.
Vous êtes monté au créneau, pour reprendre votre expression, en tant que modeste député européen, pour exiger, pour affirmer que Julien Drey devait avoir une place sur une liste dans les Sun ou ailleurs au nom du Parti Socialiste?
Je l'ai fait à plusieurs reprises. Il y a eu, qui en témoigne, un certain nombre de reprises de presse. Je le refais chez vous. Et je dis la chose suivante. Puisque ceux qui l'ont éliminé des listes disent « on le remettra » lorsque une décision de justice interviendra, qui pourrait l'innocenter. Moi, je veux qu'ils tiennent leur parole quand cela va se produire, avant qu'on dépose les listes en février. Quand on donne sa parole, elle a été donnée, maintenant je vais voir si on la tient. Ce sera l'honneur du Parti Socialiste et de ceux qui, à ce moment-là, parce que je ne voudrais pas avoir de mauvaises pensées, ont cherché à l'éliminer.
Retour du grand jury RTL Le Figaro LCI, invité Vincent Peillon, député socialiste européen, un débat dirigé par Alba Ventura.
Et toujours dans ce grand studio d'RTL avec à mes côtés Étienne Moujotte du Figaro et Éric Revel d'LCI. Vincent Peillon, à partir de demain, 192 pays vont se retrouver à Copenhague, la capitale du Danemark, pour, allez, on va dire, empêcher le thermomètre de grimper un peu trop, pour sauver la planète. Ça peut paraître naïf, mais c'est important de dire sauver la planète. Et il y a deux enjeux, la réduction des gaz à effet de serre et puis l'argent. Hein, comment les pays industrialisés s'investissent financièrement pour aider les plus pauvres. Alors, vous y croyez à ce sommet? Vous pensez qu'il est voué à l'échec, que ce sera historique?
D'abord, je pense que c'est très important, surtout sur ce sujet. On parle de 2050, vous l'avez vu. Mmh. Il y a un consensus scientifique pour dire, si la température augmente de 2 degrés encore, c'est l'humanité qui est en péril. Mais on ne dit pas on va le faire demain matin. Il faut faire de la politique avec un sens du long terme. Deuxièmement, ce qui est très intéressant dans Copenhague, 194 pays qui se réunissent, c'est que précisément, c'est plus de l'intérêt particulier. On peut pas résoudre le problème tout seul. On a besoin des Chinois, on a besoin des Brésiliens, on a besoin de parler à l'Afrique. Et donc, il faut se hausser à l'idée de ce que peut être un intérêt mondial. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis toujours attaché, vous savez, j'avais présidé la plus longue mission parlementaire de la Ve République, qui était sur les paradis fiscaux. Et je ne voudrais pas que Copenhague, ce soit le festival de Cannes. On se réunit pendant une semaine, on pouvait pas ne pas parler aujourd'hui de Copenhague. Mais on n'en parlait pas il y a 3 mois, ou il y a 6 mois. Or, les négociations, elles durent depuis 3 ans. Et nous venons de Kyoto. Et Kyoto, ça n'a pas marché. Et ça va durer encore un certain moment. Et donc, je dis aux uns et aux autres, je vais m'interrompre là-dessus, faisons attention, ne mettons pas tout sur Copenhague, parce que ça ne marche pas comme ça. Lorsqu'on veut construire quelque chose, il faut de la persévérance.
Donc, vous nous dites déjà qu'il y aura un rendez-vous dans un an, c'est ça?
Pas seulement dans un an. Par exemple.
Vous n'êtes pas tout à fait juste quand vous dites, on en parle seulement depuis 3 semaines. Il me semble que, il y a maintenant 2 ans, a été lancé le Grenelle de l'environnement, qu'il y a eu le Grenelle 1, le Grenelle 2, et que même s'il n'y a pas eu des décisions absolument décisives, le débat
a été lancé.
Et regardez Home, regardez le film de Hulot, enfin, le débat existe dans la société française.
Mais vous êtes d'accord avec moi, même je ne veux pas vous contester et polémiquer inutilement, mais nous commençons, grossièrement, les décisions sont de 97. Depuis 97, c'est la signature de ce qu'on appelle le protocole de Kyoto, certains pays. Nous n'avons pas eu les débats suffisants là-dessus. Je vous parlais des paradis fiscaux. Ce sont des débats de 99-2002. Et on n'en reparle qu'au moment de la crise financière. Et le lendemain, on se dit quoi? Non, la pensée n'est pas magique. Il faut pas. Il ne suffit pas de claquer dans ses doigts, de faire un coup de menton ou une déclaration martiale. Et pour nous, opinion publique, qui devons faire pression par des films, vous le dites, par des militants associatifs, moi, j'ai bien vu attaque, que nous, vu, tout le monde vouait attaque aux gémonies. C'est ceux qui ont défendu la taxe Tobin il y a 15 ans. Tout le monde le reprend, même le président Sarkozy. Mais la gauche aussi, qui ne l'avait pas pris à l'époque. Greenpeace, qui a porté ces débats, était considéré comme des uluberlus. Donc, nous avons besoin de remettre dans la vie politique le sens du long terme et de l'intérêt général. Et j'attire l'attention. Attention. Copenhague, ça ne peut pas être simplement un grand rendez-vous mondain, et puis on va en parler beaucoup, puis on va oublier. Parce que, si ce que nous disent les scientifiques est vrai, si c'est bien du destin de l'humanité dont il s'agit, s'il faut trouver, je vais y venir, les financements, c'est très lourd. C'est au minimum 100 milliards d'euros. On sait déjà que ça ne va pas se faire à Copenhague. Mais il faut que le lendemain matin, on soit à nouveau au travail, comme des négociateurs le sont depuis 3 ans, et ça n'avance pas. Et donc, je voudrais, parce qu'il faut faire attention aujourd'hui, je voudrais vraiment que l'on fasse attention. Il fallait en parler plus hier, il faudra en parler plus demain, il faut inscrire ça dans une persévérance. Alors, de l'action
publique. Il y a une prise de conscience évidente, vous avez parlé des scientifiques, vous savez très bien également que aucun scientifique n'est capable de dire aujourd'hui de manière précise, prouvée, mathématique, statistique en main, quelle est la part du réchauffement climatique qui est dû au développement de l'activité humaine et la part qui serait due à un mouvement naturel de la planète. Ça, c'est une donnée scientifique incontournable. Mais très concrètement, au nom de quoi aujourd'hui les pays riches, ceux qui ont assuré leur développement, qui ont donné du pouvoir d'achat, créé des emplois, empêcheraient les pays dits émergents de faire de la croissance en polluant la planète comme les pays riches l'ont polluée pour atteindre le niveau économique qui est le leur aujourd'hui?
Mais vous posez la question essentielle qui est au cœur de Copenhague, c'est-à-dire que la transition écologique va supposer qu'on change nos modes de consommation. Vous imaginez quand même que pour les pays développés, objectif 2050, c'est 90 à 95%. Quand on dit qu'il faut réduire à 2050 50%, comme on est les plus gros pollueurs, l'Afrique ne fait que 4%, ça veut dire que nous, on doit totalement changer notre modèle de développement. Ça va coûter, il faut le savoir, beaucoup d'argent. Et ça coûte aussi beaucoup d'argent pour les pays qui sont en voie de développement ou qui sont les pays émergents. Or, c'est la même hypocrisie que sur tous ces sujets. C'est le deuxième point important sur Copenhague. C'est l'écart entre les discours et les actes. Prenez l'aide au développement. On a défini des objectifs du millénaire. On a dit, il y a quelque temps, il faudrait donner aux pays les plus pauvres 17 milliards. On n'a pas commencé de verser le premier milliard. Et dans la discussion de Copenhague, et y compris les amis du président de la République, Rachida Dati, Dominique Baudis, Françoise Grosstete, ont voté au Parlement européen cette semaine que l'argent qu'il faudrait mettre pour la transition écologique, faudrait le prendre sur l'aide au développement qui est déjà en grande difficulté. Donc on peut faire des grandes déclarations si rien ne suit derrière. Et c'est pour ça que j'ai fait voter, avec Daniel Cohn-Bendit, avec Marielle de Sarnez, l'idée d'une taxe au Parlement européen, l'idée d'une taxe Tobin vert. Parce que nos pays sont en crise.
Expliquez-nous ce que c'est.
Voilà. Nos pays sont en crise. On nous dit, il faut mettre, pour que ça puisse se passer et qu'on aide les pays du Sud, il faut mettre 100 milliards d'euros sur la table.
De dollars.
Non, en dollars, c'est 150, et on a des estimations qui sont en gros de 100 milliards d'euros. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe fait une proposition financière, elle est d'ailleurs à ce stade la seule, 6-7 milliards d'euros. Moi, je pense que si on ne crée pas une nouvelle recette, on n'arrivera pas, comme dans les autres cas, à financer cela. Or, il faut créer cette nouvelle recette, parce que le budget des États aujourd'hui, je ne vous parle pas des pays pauvres, tout le monde a compris qu'ils n'ont pas un rond, mais nos propres États, qui font face à la crise, qui sont très endettés, on va y venir, ne peuvent pas aujourd'hui, si on ne crée pas une nouvelle recette, prendre sur le budget. Quel budget ? On a déjà un déficit de 140 milliards. Et donc, il faut créer cette nouvelle recette. Et la vraie volonté politique, elle va se mesurer sur la capacité qui sera la nôtre à réduire l'écart entre les grandes proclamations et puis les actes, et donc à financer ce qui va se passer à Copenhague.
Alors, Jean-Louis Borloo, il avait déjà avancé cette idée de taxe Tobin verte. Vous nous en rappelez ? L'essence.
L'idée est extrêmement simple, elle conjugue d'ailleurs ce qu'on a vu avec la crise financière, c'est prélever un petit peu d'argent, 0,01%, sur l'ensemble des transactions financières qui sont considérables. Ça met un peu de viscosité dans le système financier qui, on l'a vu, est trop mobile, et en même temps, ça permet de prélever des sommes qui iraient à ce fonds. Mais pour
donc
le
ça exonère les pays industrialisés.
Une taxe Tobin ne fonctionnerait, pardonnez-moi, que si elle était décidée à l'échelle de la planète. Vous avez lié la taxe Tobin à cette idée de prélèvement sur les transactions financières. Quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe entre les Français et les Anglais, notamment le Labour, parti travailliste, parti socialiste anglais, membre de l'Internationale socialiste, qui dit la régulation souhaitée par les Français financières est trop forte. Comment est-ce que vous voulez imaginer qu'une taxe Tobin à l'échelle de la planète rassemblerait tous les pays, alors que sur des sujets aussi impactants, sur la crise économique, personne n'est capable de se mettre d'accord, et pas vos amis socialistes anglais?
D'abord, vous avez le même problème pour le financement direct de la transition écologique, parce qu'il faut se mettre d'accord à 194. Et moi, je vous dis, c'est finalement, pour les générations qui viennent, c'est le grand défi du 21e siècle. Tout ce qu'on avait construit dans le cadre de l'État-nation, et ça a pris du temps là aussi, il fallait un intérêt général et une vision de temps. Parce que les types qui allaient sur les barricades en 1830 ou 1848, ils ne le faisaient pas pour eux, on leur tirait dessus. Mais ça a permis que les femmes aient un jour le droit de vote, ça a permis la sécurité sociale de diminuer la journée du temps de travail. Aujourd'hui, c'est la même chose. On a voulu nous dire, un événement chasse l'autre. Et d'ailleurs, on voit des dirigeants qui se contredisent d'une année à l'autre. On a voulu nous dire, finalement, ce qui compte, c'est mon pouvoir, et toujours parler de soi, et jamais des... Non, il faut retrouver le long terme et l'intérêt général. J'ai noté aussi, puisque vous me parlez de la City de Londres, sur laquelle nous avions consacré un volume entier avec mon ami Arnaud Montebourg, que l'autorité financière de la City s'est prononcée en faveur de la taxe Tobin. C'est quand même une nouveauté, je peux vous le dire. J'ai noté que le ministre allemand des finances a dit que ce serait quand même une idée intéressante. J'ai noté même qu'en France, des gens qui étaient tout à fait hostiles, à commencer par le président de la République, Nicolas Sarkozy, y est aujourd'hui favorable. Donc je suis pour qu'on avance. Alors je voudrais faire une précision, c'est pas la taxe Tobin, parce que en fait la taxe de Tobin, elle était sur l'échange. Là, on dit type Tobin parce que les gens ont gardé ça comme symbole. C'est une taxe sur les transactions financières. Et je vous dis, parce que je comprends, mais il faut être ni trop optimiste, ni trop pessimiste dans nos affaires, il faut agir. S'il n'y a pas ça, c'est-à-dire s'il n'y a pas de recettes, eh ben il n'y aura pas de dépenses. Et donc l'humanité est en danger en 2050.
Vous plaidez pour une croissance, dites-vous, sociale et écologique. Si on voulait trouver les deux ou trois marqueurs écologiques de cette nouvelle croissance, vous avez dit taxe Tobin, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, simplement?
Ben, je pense que le fait d'internaliser les coûts de ce qui est la destruction de la nature, des ressources dont nous avons besoin pour demain, ce serait déjà un marqueur essentiel. Et que lorsque l'on va arriver, et c'est fondamental, à introduire dans le prix des produits ce qu'ils coûtent en termes de destruction et donc d'avenir, nous aurons avancé considérablement. Je pense que dans les marqueurs, j'en prenais quelques-uns tout à l'heure, sur le rapport qui est le nôtre au déplacement, aux véhicules, sur le rapport qui est le nôtre à l'énergie dans nos propres logements. Je crois que toutes ces questions vont nous conduire. Parce que, dans le fond, ce qui me gêne aussi dans Copenhague, c'est qu'on fait peur aux gens. Et on sait qu'aujourd'hui, la peur est partout, hein. Elle est là sur l'immigration, elle est là sur... Elle est aussi là sur le réchauffement climatique. Et c'est ça aussi qui vend du papier, éventuellement, pas recyclable, et de l'émission, et du film. Or moi, je veux dire aux Français...
C'est parfois la peur qui fait avancer, hein.
Je veux dire aux Français et aux autres, non, jamais, on en parlera tout à l'heure sur l'identité nationale, mais je veux dire aux Français et aux autres, dans le fait de changer notre mode de développement, il y a du tout bon. Il y a du bon pour nous, parce que tout ne va pas bien là, mais il y a aussi du bon pour le milliard de personnes qui sont en train de mourir de faim et ça augmente. Il y a pour toute notre jeunesse des vrais combats à mener là, comme nos parents, nos arrière-grands-parents ont mené des combats pour construire les régulations dont je parlais tout à l'heure. C'est à ce niveau que ça doit se faire. Si on doit alimenter un fonds mondial pour l'environnement, et alors là, vraiment, sur le CO2, vous pouvez prendre une décision en Autriche ou une décision en Suède, ça change rien. Il faut la prendre tous ensemble, chacun à son rythme, dans le respect de sa diversité, en aidant les plus pauvres, en se fixant des objectifs raisonnables. Je trouve que le changement d'Obama est un changement considérable.
Ça, c'est une bonne nouvelle qu'il vienne à Copenhague le 18.
Il vient deux fois, il vient deux après fois, son oui. prix Nobel, il vient le 18. Il est dans un calendrier très difficile. Vous savez que les Américains n'avaient pas signé le protocole de Kyoto. Vous savez qu'ils ont dérapé. Et il a fixé deux objectifs. Un objectif à 2020 qui est faible, mais un objectif à 2030 qui est important. Quand une main est tendue, il faut la saisir. Et nous ne ferons rien sans les Américains. Il serait ridicule qu'une fois de plus, notre président de la République pense que l'essentiel de Copenhague est son affrontement personnel à Barack Obama sur la scène du grand barnum médiatique mondial. Il faut faire avancer cette cause. Les Américains ont bougé, les Chinois ont bougé derrière, les Indiens bougent, le Brésil est assez loin, est allé assez loin dans ses propositions. Il faut que l'on arrive à avoir des exigences à Copenhague, d'abord en baisse du CO2 et deuxièmement en financement qui répondent à cela.
Vincent Peillon, vous faites quoi pour l'environnement, par exemple, depuis ce matin? Depuis que vous êtes réveillé, vous avez fait quoi?
Bon, alors, j'avais préparé cette question, donc je ne laisse pas couler l'eau quand je me brosse les dents. Je n'ai plus de voiture et donc je ne prends que les transports publics à Paris, etc., etc.
Bah, bravo. On va aborder maintenant un autre grand dossier, c'est l'identité nationale. C'est ce débat qui secoue la France depuis quelques semaines maintenant, débat lancé par le gouvernement, qui a débuté assez timidement, qui a le mérite de soulever plusieurs questions. Alors, on imagine que le philosophe que vous êtes, c'est pencher sur cette question, et sans doute celle-ci précise, c'est quoi pour vous être français?
Alors, vous savez, Nicolas Sarkozy est, il va, j'espère s'en rappeler cette semaine, président de la République française, pas de l'identité nationale. Et ça veut dire une chose très précise. Nous, Français, nous pensons que notre projet national, c'est la République. Et la République, c'est un ensemble de valeurs. J'ai parlé tout à l'heure de la priorité à l'école. Elle est fondamentale. Il n'y a pas de religion civile en France. On a fait la nation France et c'est elle qui a fait l'unité nationale. C'est l'école de la République. Parce que les Bretons, les Basques, tout ça, les gens font « la France est éternelle ». Mais c'est une plaisanterie. Le terme même de nation date de la Révolution française. Et il faut savoir qu'il y a encore un siècle, il y avait les petites patries, comme on disait. Il fallait unir tout ça. Donc c'est la République. C'est un projet de justice sociale. Ça réunit la droite et la gauche dans le Conseil national de la Résistance. Les services publics, la sécurité sociale. C'est une idée de la laïcité, à laquelle, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy n'a rien compris, qui est une laïcité de tolérance, mais qui est en même temps une laïcité qui doit permettre une séparation très précise de la sphère publique et de la sphère privée. C'est un ensemble de valeurs qui constituent la France. Ce sont des livres. Quand je l'ai entendu attaquer la princesse de Clèves, je n'ai pas compris. Nicolas Sarkozy dit quand même, pour enseigner la princesse de Clèves, qui me semblait être un élément de la culture française, il faut être soit un imbécile, soit un sadique. Ça a dû faire plaisir à beaucoup de gens. On l'a vu mettre au-dessus l'instituteur, le rabbin, le curé, l'imam. Quelle méconnaissance même de ce qui fait notre communauté nationale et nos valeurs partagées. Donc je souhaiterais, parce que le débat a pris mauvaise tournure, et je vois pourquoi d'ailleurs, et il y a chez Nicolas Sarkozy deux veines. Il y a une veine. Et c'est cette veine-là pour laquelle les Français ont voté. C'est-à-dire les discours républicains de M. Guénot. Il dit la promesse républicaine n'est plus tenue dans ce pays. Parce que notre pays ne vit pas une crise d'identité nationale. Il vit une crise précisément de l'esprit républicain. Et M. Sarkozy y participe. Mais ça, il l'a bien dit dans la campagne. Et il a dit, il y a trop d'écart entre les valeurs de la République et la réalité que vous vivez dans les banlieues, sur le terrain, etc. Et moi, je suis l'homme qui va faire bouger la France pour faire que ça marche ensemble. J'ai trouvé que c'était un beau discours, et une majorité de Français ont pensé que c'était juste, et lui ont donné sa chance.
Alors ça, Vincent Peillon.
Et il y avait un deuxième discours, si vous me le permettez. C'était un discours, déjà, le mouton égorgé dans la baignoire, le ministère de l'Immigration et de l'Identité Nationale, qui s'adressait électoralement à d'autres. Le problème, c'est qu'il a échoué sur la promesse républicaine. Je parlais tout à l'heure de l'insécurité, je parlais de l'école. Et qu'aujourd'hui, il revient sur ce discours inacceptable. Et d'ailleurs qui n'a jamais été pratiqué dans notre pays, où on lit identité nationale et immigration. Donc je crois qu'il faut qu'il revienne, dans les jours qui viennent, à sa fonction de président de la République française.
Alors ça, c'est le discours brillant d'un intellectuel qui n'oublie pas qu'il a été prof de philo, mais très concrètement, Vincent Peillon, est-ce que la burqa et les minarets menacent l'identité nationale? Est-ce qu'il faut imaginer, par exemple, des consultations locales dans certaines villes françaises où on veut construire des minarets?
D'abord, j'attire votre attention sur le fait, vous savez, vous êtes fiers d'avoir eu Victor Hugo, Descartes, c'est la France, comme dit Glucksmann. Ne méprisez pas trop les intellectuels. Et vous auriez réagi plus vivement, et les Français auraient réagi plus vivement, quand nos historiens ont démissionné, au moment de la création du ministère de l'Identité Nationale et de l'Immigration, on n'aurait pas aujourd'hui
aucun
le climat que l'on a.
Ça ne s'adresse,
le vous et le collectif.
D'accord.
Deuxièmement, sur les sujets que vous évoquez. Aujourd'hui, et vous l'avez vu, la France a augmenté son chômage de 25%. On nous annonce 50 000 personnes qui vont être privées d'emploi de plus. C'était le cas le mois passé. Tous les instituts de conjoncture nous disent qu'au moins le premier semestre 2010 va être encore pire. Dans ma circonscription, un jour à Rio Tinto, l'autre jour dans la Loire, à Siemens, je vois des familles entières dévastées par centaines. On parle de 50 000 personnes. Ce sont des hommes et des femmes de chair. Et on voudrait que le débat français ne porte pas là-dessus, qui est l'essentiel pour notre pays, mais porte sur la burqa, moins de 400 personnes d'après la Commission, ou porte sur 4 minarets en Suisse. C'est là que je dis qu'il faut s'arrêter. Si nous aimons notre pays, si nous nous respectons nous-mêmes, si nous venons effectivement de cette tradition qui va de Descartes et à d'autres, posons les vrais problèmes, traitons-les avec sérieux, et n'esquivons pas chaque fois que la France a des décisions à prendre, ce sont des élections régionales. Les minarets suisses ne relèvent pas des compétences régionales, mais le développement économique, oui. Mais les transports, oui.
Mais vous,
la formation,
23 janvier,
oui.
Vous faites un débat sur la 6e République, pas sur le chômage, pas sur l'emploi, pas sur la crise économique.
Mais je m'exprimerai aussi, et je le fais sur ce sujet, mais je considère que dans cette constellation qu'est notre identité, la question des institutions, mais la question aussi de la justice, et combien de soucis nous avons eu ces derniers temps, la question des médias, la question des collectivités locales, c'est-à-dire de tout ce qui organise notre vie politique, est une question importante sur laquelle nous devons avancer. Alors je voudrais vous répondre. Je pense que il faut faire très attention à ne pas stigmatiser encore ces moins de 400 jeunes filles qui portent la burqa et dont nous devons souhaiter qu'elles l'enlèvent rapidement. Mais j'attire votre attention sur le fait que ces jeunes filles, pour une grande partie d'entre elles, sont d'origine française. C'est très intéressant quand on regarde les études. Deuxièmement, on choisit librement de porter de cette burqa. Et donc, nous, ce que nous avons à faire dans une république éclairée, c'est les convaincre qu'il faut l'enlever, et puis essayer de traiter les sujets derrière. Il y a une chose que je voudrais vous dire qui est très intéressante dans le moment présent. Aujourd'hui, 50% des enfants qui sont enfants d'ouvriers maghrébins ont le baccalauréat. 50% des enfants d'ouvriers français ont le baccalauréat. C'est pareil. La seule différence, elle intervient sur les CSP+, c'est-à-dire les catégories supérieures qui arrivent à 75 ou 80%. Par contre, quand ces enfants, bac, même niveau selon la catégorie sociale, il y a une France qui marche, il y a une France qui s'intègre, ces gens-là vivent ensemble, c'est pour eux, il n'y a pas de problème d'identité nationale. Pareil à bac plus 2, mais quand ils recherchent un emploi, alors là, formidable difficulté, de 1 à 3. Parce que la France continue, et c'est des autorités administratives indépendantes comme la HAD qui le disent, de ne pas traiter bien tous ces enfants. C'est là l'effort que nous avons à faire. C'est pas sur 400 burqas, c'est pas sur ces milliers et ces milliers de jeunes qui sont en difficulté. Sachez qu'aujourd'hui, dans les quartiers sensibles sur lesquels Madame Fadela Amara n'a rien fait, que ce gouvernement a abandonné, dont on nous dit qu'il peut y avoir encore des émeutes urbaines bientôt, le maire de Clichy-sous-Bois cette semaine. Sachez que dans ces quartiers, 50% des jeunes sont sous le seuil de pauvreté. 50% des jeunes sont sous le seuil de pauvreté. Est-ce que c'est la France que nous aimons? Est-ce que c'est la France que nous voulons? Ça justifie aussi le rassemblement. La France doit se remettre en mouvement, retrouver sa grande tradition, être plus généreuse et plus efficace aussi dans sa politique.
On l'entend juste sur le modèle républicain. Est-ce que vous dites qu'il est à bout de souffle, ce modèle? Est-ce que c'est celui qui assimile ou celui qui continue à cultiver sa différence en étant concret?
Je vais être très concret. Vous savez, il en est d'une nation comme d'un organisme ou d'une psychologie. On enseigne à tous nos enfants, les vôtres, nos élèves, ceux qu'on doit élever, comme dit la République, pas abaisser, en les amenant toujours à voir ce qui n'est pas beau. On leur dit une chose simple, vous savez, un organisme, il est vivant tant qu'il a des échanges avec l'extérieur. Et la mort, c'est ne plus avoir d'échanges avec l'extérieur. Mais on leur enseigne aussi qu'il faut assimiler l'échange avec l'extérieur, la nourriture que je vais manger, mais il faut aussi s'adapter. On leur a enseigné ça. C'est-à-dire qu'on se transforme, c'est un processus. C'est d'ailleurs ce que Brodel, le grand historien, dit de la France. Il dit la France, c'est des additions. La France, c'est quelque chose qui est une identité qui se met toujours en question. C'est un processus. Et le jour où le processus s'arrête, la France est morte. Eh bien, ça, ça vaut pour notre nation. Et donc, nous avons à inculquer, c'est le rôle de l'école, c'est le rôle de nous tous, des valeurs qui sont nos valeurs communes, y compris dans nos comportements, parce que la tradition française, c'est l'exemplarité. Tenir sa parole, se comporter bien. Nous avons à inculquer ces valeurs, et nous avons, nous aussi, notre pays, nous-mêmes, à évoluer.
Les valeurs patriotiques aussi, c'est important.
Vous savez, dans la tradition française, on oppose nationalisme et patriotisme. Il y a en fait, ce débat est né à la fin du 19e siècle. Nous sommes des patriotes. Mais les valeurs patriotiques, c'est la France soldat de l'universel. C'est la France qui est capable, dans la Révolution française, de naturaliser des Pestalozzi, des étrangers, en disant, ici, du moment où nous partageons des valeurs, nous vivons ensemble. Alors, il faut accepter ces valeurs, il faut se comporter bien, il y a des règles à respecter, mais c'est notre tradition.
Étienne Moujotte. Oui,
juste pour finir sur l'immigration, vous dites, et je crois à juste titre, qu'il faut aider ceux de nos compatriotes qui viennent de l'immigration à s'intégrer, à progresser et à prendre l'ascenseur social, pour la faire courte. Est-ce que dans le même temps, vous dites, ceci veut dire qu'il faut lutter fermement, fortement, contre l'immigration clandestine? Est-ce que pour vous, l'un est le pendant de l'autre ou pas?
Bien sûr. Bien sûr, je crois qu'il y aurait beaucoup de démagogie et d'incompréhension des uns et des autres à dire que nous sommes un état de droit, mais que ceux qui ne respectent pas le droit n'auront pas de problème. Je parlais d'exemplarité. Ça ne tient pas une seconde. Quels sont les critères qui font un clandestin? Nous avons là l'espace d'un débat. Vous savez, je me souviens d'Alain Juppé disant, c'est formidable ce qu'a fait Jean-Pierre Chevènement en 97 avec les lois Reseda sur le séjour des étrangers, sur le droit d'asile, sur le regroupement familial, parce qu'il a réussi, avec des critères, il s'agissait pas d'intégrer tout le monde, à faire que l'immigration ne soit pas au cœur du débat politique français. J'en veux beaucoup à ceux qui ne font rien sur l'immigration clandestine, voire encore ce que disait notre ami Claude Dillin, mais qui en permanence veulent remettre cette question de l'immigration au cœur de la vie politique française. Nous avions progressé, et nous avions progressé dans un équilibre républicain, où il est évident, c'est la phrase de Rocard, que l'on ne peut pas accueillir tout le monde, on serait incapable de le faire. Et en plus, on accueillerait mal ceux qui doivent l'être. On n'a pas les moyens de le faire.
Et alors à ce moment-là, il serait bien que les dirigeants socialistes, y compris la première d'entre elles, ne parlent pas de régularisation la plus large possible.
La première d'entre elles...
On l'a compris.
On l'a compris, mais elle n'a pas dit ça. Et c'est toujours un problème. On parlait de ceux qui travaillent en France. On parlait de ceux qui cotisent et payent leurs impôts. Et on disait, il serait peut-être là raisonnable de ne pas les pourchasser. Comme je vais dire, en même temps que je vous tiens le discours, j'en ai assez de voir les policiers devant les écoles. Ça n'est pas mon pays. Donc on peut tenir à la fois un discours noble sur ce qu'est la France et en même temps dire, bien entendu, d'ailleurs vous savez, la politique de l'immigration, elle est en grande partie de niveau européen. Et on entend ici des discours, comme d'habitude, que l'on n'entend pas quand nos ministres se déplacent en Europe, parce qu'ils sont plus raisonnables et moins démagogiques qu'ils le sont ici.
D'ailleurs, le thème de l'immigration choisi est devenu une politique européenne approuvée par la plupart des gouvernements, quand même, ça on peut pas l'oublier.
Oui, mais dont il faut considérer, si vous voulez, c'est un des sujets qu'on a devant nous, qu'il va falloir prendre très au sérieux, parce que, y compris, ce qu'on appelle le pacte européen sur l'immigration ne donne pas des résultats aujourd'hui extraordinaires. Et vous savez, c'est une des difficultés, c'est que tous les pays européens sont dans une situation très différente. Nous, la France, on a un bon taux de natalité. Mais en réalité, aujourd'hui, d'autres pays, l'Italie, l'Allemagne, ont beaucoup plus besoin que nous d'apports étrangers. Donc, il faudra traiter tout ça avec sérieux, parce qu'en plus, les migrations sont devant nous. Ce sera aussi l'affaire du 21e siècle.
Merci beaucoup, Vincent Peillon. Ce grand jury est terminé. Merci, messieurs. Et la semaine prochaine, vous retrouverez Jean-Michel Apathy.